sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les chemins de la création. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie puisque je suis entourée de Frédéric et Gabriel. Et ensemble, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui nous rassemble, la création. Comme dans chaque émission, on est ici pour s'interroger, pour partager nos rapports à la création et qu'est-ce qui nous traverse quand on crée. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire et voilà, et pourquoi la création est aussi importante dans nos vies respectivement. Alors nous allons découvrir nos invités. Bonjour Frédéric et bonjour Gabriel.
Et bonjour.
Salut.
Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous dire qui vous êtes?
Oula, c'est difficile. Qui sommes-nous vraiment?
Bah Fred, je te laisse commencer.
Ah bah j'allais te dire commence.
Non, honneur à la...
Honneur à la vieillesse, merci.
C'est ce qu'il faut. Hein,
on nous voit pas mais on nous entend. Bon, je suis plus vieux effectivement, Gabriel. Donc moi c'est Frédéric Ambrosini, donc je suis comédien, mais comédien sur le tard. Je suis arrivé tard dans le paysage audiovisuel, mais dans la comédie, je suis arrivé très tôt. Parce que déjà à l'école... On disait que j'étais un véritable acteur. Et ensuite, parcours faisant, j'ai fait une grande carrière pharmaceutique où je vendais des produits bien, mais que je faisais passer pour des produits champions du monde. Et quand j'ai décidé un jour, non pas sur un coup de tête, mais sur une réflexion qui était aujourd'hui, quel est le plus important pour moi, j'avais 51 ans ou 52 ans, donc... J'avais passé la moitié de ma vie. La réponse a été très vite, le temps qui me reste. Et le temps qui me reste, eh ben, je veux créer et je veux surtout kiffer le reste de ma vie. Et donc j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfant qui était acteur. Et donc j'ai fait ça. Et je suis devenu acteur.
Super, alors c'est super Fred, parce que en général je vous demande de vous présenter et ensuite je demande d'où ça naît ce rapport à la création, et alors toi tu nous déroules tout sur un tapis rouge, c'est super agréable du coup.
J'ai créé.
Du coup si tu veux bien on va aller creuser un petit peu là-dedans, parce que du coup quand t'étais commercial.
Commercial en pharmacie.
Commercial.
Ouais, ouais.
T'avais déjà un rapport au personnage ou...
Alors oui, parce que chaque vente était différente et chaque vente était une pièce de théâtre. Je ne racontais pas la même histoire à tout le monde. C'était en fonction de la personne que j'avais en face, en fonction de sa sensibilité, bah, je racontais une histoire différente.
Et
j'arrivais très bien à vendre là-dessus.
Tu venais toucher le spectateur, le client du coup.
C'est ça.
Il y a un parallèle.
Le client devenait un spectateur. Et à partir du moment où il mettait son « oui, je veux, j'achète », ben j'avais gagné.
Du coup, pour vendre, tu racontais des histoires?
Pour vendre, je racontais des belles histoires.
Incroyable.
Alors parfois, c'était des bons produits, je racontais la bonne histoire et pas la technique de vente qu'on nous apprend tous les jours dans ce milieu-là, en disant « voilà, il faut reformuler la technique de l'entonnoir ». Non, non, non. La meilleure technique, c'est celle qui nous va. Moi, c'était le théâtre.
Et du coup, tu dis que c'est un rêve d'enfant, donc il y a quand même quelque chose depuis l'enfance qui est là. C'était quoi ton rapport à ça pendant l'enfance? Tu dis mon rêve d'enfant, c'est d'être acteur.
Bah, en fait, c'était justement de créer des personnages et d'être des personnages, donc de jouer des personnages. Donc,
l'enfant qui joue, qui s'amuse.
L'enfant qui joue le rôle du médecin, qui joue le rôle de Zorro ou autre chose, donc je crée en permanence des personnages.
Et du coup, c'est dans l'enfance que ça vient te percuter, ce rapport à la création d'abord, mais de façon assez anodine quelque part ou
Oui, au début c'est anodin, on va voir un film au cinéma et quand on sort, on est complètement retourné en se disant « mais moi je veux faire ça, je veux faire ça ». Et bien évidemment, quand on en parle autour de nous, on nous dit « Mais non, tu rigoles, c'est pas un milieu pour toi, c'est le pire milieu qui existe, tu peux pas faire ça, et puis de toute façon c'est inaccessible, tu arriveras jamais. » Donc ouais, chemin faisant, on a des enfants, on achète une maison, on a un métier, donc on n'y pense pas, mais ça reste quand même latent en nous jusqu'au jour où ça sort. Voilà. Moi, c'était en me baladant sur la plage. Je me suis posé la question et je me suis dit, c'est maintenant. Donc le lendemain matin, j'ai appelé mon PDG et j'ai dit, je m'en vais. Et là, il m'a dit, ce qui était assez exceptionnel, il m'a dit, je le savais.
Ah ouais.
Je savais que tu partirais pour ça, parce que c'est ton truc.
Ça fait du bien de se sentir soutenu comme ça quand tu prends une décision forte et où en fait toute ta sécurité elle part en éclat parce que on connaît l'insécurité de ce milieu et tout.
Et mon PDG a habité Montpellier, ça doit être à cause de ça, je pense. C'est une bonne personne, c'est toujours une belle personne.
Super, merci Fred. Et toi Gabriel, qui es-tu? Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais comme création? Raconte.
Moi, c'est un peu comme Fred. Dans la vie, j'aime bien un peu tout ce qui est la création, quoi. c'est assez vaste. Moi, j'aime bien jouer avec le malaise. Je fais des vidéos où je joue pas mal avec le malaise. À la base, moi, j'ai fait 7 ans de théâtre.
Ouais.
Et mon prof de théâtre, il m'a dit, écoute, t'es pas fait pour ça. Parce qu'en fait, tu sais jouer qu'un seul style, qu'un seul registre. Et t'es un peu bloqué dans ce que tu fais, donc fais du stand-up et tout. Et moi, j'ai commencé à faire du stand-up et après, j'ai commencé à faire des petites vidéos courtes où je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire du malaise et du décalé.
Ok. Et du coup, attends, c'est intéressant. Donc, tu t'as fait d'abord du théâtre et après, ça t'a emmené vers le stand-up. Mais par ce prof qui te dit, t'es pas bon au théâtre. Mais
oui,
tu serais bon dans tel registre qui est du stand-up.
Ouais.
Mais toi, foncièrement parlant, ça te parlait ce registre-là où tu t'es dit c'est ça, c'est vraiment moi. Ou parce que si tu travailles, tu pourrais aussi développer toutes les qualités qu'il faut pour un acteur pour jouer n'importe quoi aussi. Enfin, tu vois.
Oui,
ce que je veux
mais
dire.
Après, je suis un peu. Ouais,
est-ce que du coup, ça t'a. Tu t'es dit mais il a raison, c'est vraiment mon truc, c'est ça. Ça t'a éclairé? Ou t'y allais un peu parce qu'on t'a dit ça, donc t'y allais.
Moi, j'ai l'impression que la vie, c'est un peu du destin. Un peu donc je me dis, si on m'aiguille là, j'y vais et on voit. Donc c'est, je l'ai pris comme une voie, comme une mission. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a dit le stand-up, j'ai dit je vais faire du restaurant. Elle m'a dit le loyer, j'ai dit ouais, je vais travailler un peu à côté. Et au final, j'ai fait des scènes à droite, à gauche, et j'ai rencontré pas mal d'humoristes. J'ai fait des checks à Gad Elmaleh et tout. J'ai fait des checks.
Voilà. Et alors, ça fait quoi de checker Gad Elmaleh?
Pour lui, très peu agréable. Pour moi, j'ai adoré.
Est-ce que tu l'as forcé à checker? Il me faut ce check dans ma vie. Il faut que c'est l'accomplissement, quoi. J'ai checké Gad Elmaleh. Oui.
Ouais. Oui, c'est un peu ça.
Carrément. Je vois très bien. Et du coup, est-ce que tu saurais nous... Donc là, actuellement, comment tu t'identifies? Comédien de stand-up?
Stand-upper. Certains me reconnaissent comme TikToker. Sauf que moi, je déteste... les applications TikTok et tout.
Parce que t'agis aussi sur les réseaux sur TikTok.
Ouais, enfin à mon insu. C'est-à-dire, à la base, je voulais rien poster, mais mes amis toulousains, parce que moi je suis de Toulouse à la base, ils m'ont forcé à poster des vidéos parce qu'ils disaient que c'était ça la new gen, quoi.
Les filous.
Ouais, et du coup j'ai posté et ça a marché, mais du coup maintenant on m'associe trop à TikTok.
Ok, c'est très intéressant, on pourra y revenir aussi à ça, à l'image qu'on renvoie et qu'est-ce qu'on doit cocher comme case, parce que des fois on nous met dans un truc alors que toi foncièrement qu'est-ce que tu voudrais être aussi, qu'est-ce que tu penses que t'es, enfin bref, ça c'est des vraies questions, on peut aller sur ça sur ce terrain là aussi parce que c'est très intéressant.
Ouais.
Je sais pas si ça te parle.
Qu'est-ce que je suis au fond, quoi, enfin à quoi j'aimerais qu'on m'identifie.
Ouais, vers quoi tu veux aller, enfin, tout ça, c'est des vrais questionnements quand on est dans ces métiers-là, et voilà. Et du coup, je voudrais revenir juste, remonter un peu à la source. Quand est-ce que, dans la vie, est-ce que tu as un souvenir de quand est-ce que la création vient t'attraper? Est-ce que c'est genre au théâtre pendant ces quelques années de pratique théâtrale, ou est-ce que c'est avant, quand tu étais enfant, ou enfin comment enfant, ça...
Chez les scouts, parce que moi j'ai été scout et guide de France pendant 9 ans, et chez les scouts, chaque individu avait des rôles. Par exemple, il y en avait, ils étaient intendants, donc la cuisine, ils géraient l'argent, il y en a, ils étaient architectes et tout. Et moi, je savais rien faire, j'étais nul en tout. Et il y avait un rôle qui s'appelait le rôle artiste, qu'il fallait juste animer les soirées.
C'est toi qui alimentais avec les chansons, ouais, la ça. Guitare ou pas d'ailleurs. Enfin,
ouais, c'est un peu ça, nous, c'est les chansons, mais moi, c'était plus organiser des veillées, ouais. C'est-à-dire me déguiser en cheval. Enfin, il n'y avait pas que ça, il y avait... Si, en oiseau, des fois.
J'adore.
Merci.
Donc, il y a un côté animation, en fait, qui t'a... Ouais. Qui est venu t'amener... Enfin, nourrir ça, en fait, ton ouais. rapport à la créa.
Bah, c'est ça. Bah, surtout qu'il y a différentes créations. Il y a par le rire. Et moi, ça me permettait de m'inclure aussi. Voilà.
Par le rire. Alors là, les amis, on a plein de sujets. Là. On a s'inclure, se faire inclure par le rire. Je sais pas si ça te parle, Fred, toi.
Ah bah si, carrément.
Mais ça, voilà, voilà, les cases, dans quelles cases on nous met. Enfin, il y a tellement de choses à se raconter. Mais partons sur le rire. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, toi,
ah bah
Fred?
Complètement. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Gabriel, en disant, on m'associe à TikTok. Ouais. Donc j'ai pas envie d'être TikToker. Mais tu n'es pas TikToker. Tu es un artiste qui fait du stand-up et qui passe par le canal de TikTok. Imagine que TikTok, c'est une télé.
Ah ouais, c'est vrai.
Voilà. Donc, il faut passer par là parce qu'aujourd'hui et demain, ça sera réseaux sociaux, TikTok et tout autre qui seront les jeunes de, et les vieux de demain. C'est ce qu'ils auront dans la main. Ouais. Donc, surtout ne pas dire « j'ai pas envie de devenir TikToker ou Facebooker ou Instagrammeur. Ce ne sont que des canaux.
Ouais, c'est vrai.
Donc ça ne changera rien à ta création, au contraire, c'est une façon de te montrer, de savoir ce que tu fais. Et très souvent, les artistes, Gad Elmaleh peut-être pas, mais les artistes passent par les réseaux sociaux. Il y a des... j'ai mangé le prénom de cet artiste qui a d'abord fait des vidéos sur TikTok et sur Facebook.
Et il y en a plein.
Ouais.
Oui,
ouais.
Elle est russe.
Diane Segar,
ah,
c'est ça.
Diane Segar.
Diane Segar, elle a commencé par les réseaux sociaux et ça l'a révélé.
Oui, c'est vrai. Ça l'a, ouais.
Voilà, et c'est une artiste, c'est pas une TikTokeuse. C'est une artiste qui est passée par ce canal-là.
Oui, c'est un biais. C'est un média, ouais. Quoi, en fait, quelque
ouais.
part.
Ouais, mais il y a 10 ans, en fait, on n'était pas obligé de passer par là et je pense que je suis né 10 ans en retard. C'est l'époque de Paul Mirabel. Il n'y avait pas les réseaux.
Ouais, ouais.
C'était explosion directe.
Moi,
à
l'époque, la télé était en noir et blanc.
Ah oui, c'est vrai, bah oui, avec Michel
et
Leeb.
Et il n'y avait qu'une chaîne. Donc, à mon époque.
Ah, okay.
Donc, non, et le rire est, pour rebondir sur ce que tu disais, Clémentine, le rire est très, très important. Très, très important. Mais moi, qui aime bien les rôles un peu de psychopathe ou les rôles un peu noirs, j'aime beaucoup. Je passe aussi par les réseaux sociaux, puisque en 2 ans, j'ai eu pratiquement 200 000 followers.
Ah oui.
Et donc, deux ans, grâce à...
Il a percé.
Voilà, j'ai percé, mais c'est grâce à Gabriel Marie, surtout. On a un duo père-fille. et du coup, bon, elle était déjà bien implantée avec plus de 500 000 followers, donc j'ai récupéré un peu les siens. Ouais. Mais j'en ai, c'est marrant. C'est assez marrant.
Ouais, c'est ouf, les réseaux. Hein.
Ouais.
On est suivi par...
Et aujourd'hui, c'est important. On passe par là. Voilà. Et le rire, c'est... Et même moi, quand je faisais... si je faisais rire mon client, c'était gagné.
Ouais, du coup, quand il y a du rire, est-ce que c'est là où vous sentez que ça fonctionne quelque part?
Ah bah, à partir du moment où il y a un rire, il y a une liaison, enfin une sorte de feeling entre les deux qui fait que on apprécie. On dit, mais j'adore ce gars, il me fait rire.
Mmh. Ah ouais. Non, bah, voilà. c'est, je le vois différemment. Ça. Ouais. Ça brise une sorte de structure d'orgueil, parce qu'il y a beaucoup de... Le rire, pour moi, ça casse le sérieux de la relation, quoi.
Mais aussi, bien
ça
sûr.
Ça permet de se
bien
défendre.
Ouais. Ouais, bien sûr.
Oui, mais du coup, c'est là où tu peux avoir accès à l'autre, quelque part.
Oui,
c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Que ce soit dans une technique de vente dont on parlait, ou sur scène, en fait, à partir du moment où tu viens faire rire, où il y a un rire qui se crée, en tout cas, il y a un échange. Enfin, le rire, est-ce que le rire peut mentir, en fait? Je sais pas.
Est-ce que le rire peut mentir?
Je dirais oui.
Alors, je dirais oui aussi, parce que je ne raconterai pas le produit en question, mais il y avait un produit à base de pulpe de tomate qui vous rendait la jeunesse éternelle, qui était peut-être à 2% de tomate. Le reste, c'était des produits conservateurs et autres. Oui, je l'ai vendu par le rire.
Ah ouais.
Ouais, bah, après bien, l'efficacité, je sais pas, elles sont peut-être toutes mortes, je sais pas. mais ça marchait pas, non, ça marchait pas. Mais ça s'est très bien vendu.
Ah bah.
Et d'un point de vue scénique ou audiovisuel, est-ce que le rire, peut mentir, enfin est-ce qu'un public peut rigoler pour la forme ou comment, je sais pas, c'est une question que je me pose.
Bah, on peut rire, on
peut
rire.
C'est spontané quand même le rire.
On peut rire sur un mensonge. Si le mensonge est tellement gros que c'est pas possible et qu'en face la personne, on lui dit mais t'es bête ou quoi, c'est... Enfin, t'as pas vu que c'est comme ça en fait et ça fait rire.
Ouais, c'est vrai.
Oui, oui, on peut.
Non, c'est vrai.
Après, il y a deux publics. Il y a le public virtuel et le public dans la vraie vie. Le public dans la vraie vie, il est, je dirais qu'il est plus faux que le public virtuel, parce que virtuel, ça, s'ils aiment pas, ils commentent, ils disent j'aime pas, c'est pas drôle, tac. Et ils revoient pas dans le réel la personne. Que dans la vraie vie, sur scène, en stand-up, c'est difficile d'être bras croisés.
Là, on est face.
Rester comme ça, pareil.
Et puis aussi, j'ai l'impression que ça serait plus constructif, un public qui rit pas, quand on est frontal, en mode scénique, je veux dire. Ouais. Et qui peut te faire des retours. Et du coup, ça serait plus constructif. Il a pas ri, à la fin, on peut en discuter et tout. Et toi, tu peux faire évoluer aussi ton spectacle, tes blagues, tes machins. Enfin, alors que sur les réseaux, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui vient de faire un retour constructif, bienveillant, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Sur les retours, on met un cœur, on met un pouce.
Oui, voilà.
Sur les réseaux sociaux. Ou alors, on est derrière son écran, tout seul, à vivre avec son chat, et on critique systématiquement. Ouais, c'est nul. On n'a même pas dit pourquoi, on dit juste c'est nul. Ouais, j'ai pas aimé, c'est nul. Tout ce que tu fais, c'est nul. Ouais. J'aime bien ça. Et ce qu'il y a, si on prend... très souvent, quand moi je fais des sketchs, quand tu fais des sketchs aussi, très certainement, tu mets ça sur les réseaux sociaux, t'as des gens qui disent « je déteste, ça me fait pas rire ». Et là, tu leur réponds « mais moi, je fais ça pour donner du bonheur aux gens ». Moi, quand on me critique, je dis « mais moi, je vais pas te bloquer direct, je veux dire, moi je fais ça pour faire plaisir à des gens, les faire sourire et leur donner un petit peu de bonheur, et je suis très content que tu me critiques, parce que comme tu critiques, c'est que tu as vu. Si tu as vu, ça te fait plaisir de venir me dire que c'est nul, donc je t'ai donné du bonheur, donc j'ai gagné.
Ouais, c'est vrai, ça faut se dire les
choses. Et en règle générale, il n'y a plus rien derrière.
Ah bah oui.
Ah bah non, il dit plus rien, bah non.
Moi je like juste
mais ce qui est plus dur sans doute pour toi que pour moi, c'est que toi, si tu es face à un public et que le public ne rit pas,
ah oui, moi je trouve ça agréable.
Ça aide peut-être, mais ça doit être quand même vachement frustrant. Tu dis j'ai travaillé mon personnage, j'ai travaillé mon sketch pendant des mois, je suis face à des gens qui ne rient pas. C'est compliqué.
Oui, mais pour moi c'est
alors
qu'ils
que nous
sont...
on les voit pas derrière. Oui, ils sont derrière leur écran, donc on les voit pas.
Je vois ce que tu veux dire. Mais derrière l'écran, je trouve ça plus stressant que dans la... Parce que dans le direct, moi, je me dis, ils sont devant moi. Je sais qu'ils rigolent pas. Ils sont en retard par rapport à ce que je... Parce que je suis trop en avance, moi, dans le monde de l'humour.
D'accord.
Je me projette comme... C'est orgueilleux, mais c'est ma manière.
C'est de dire, vas-y.
C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que j'ai 10 ans d'avance et que là, c'est un public qui est encore dans le passé. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, je sais que ça va plaire dans l'avenir. Je sais pas comment expliquer, je mise sur ce que je fais, et du coup je sais que s'ils rigolent pas, je me dis c'est pas mon public, hop on passe à autre chose. Je vais pas me remettre en question.
Et y a pas ce petit kiff de dire et ça rigole pas, du coup je vais faire une vanne sur le fait que ça rigole pas, enfin comment tu peux transformer aussi
Ça justement, tous les humoristes ils font ça parce que ça se permet de... On appelle ça comment une béquille, voilà, on appelle ça une béquille.
Ouais.
Ça permet, voilà, chaque humoriste le fait, ah, ça rigole pas, haha, du coup ça rigole, de dire ça sur scène. Mais moi j'aime bien, c'est entendre ceux qui rigolent, leur demander des conseils, justement, parce que c'est eux mon public. C'est eux que j'ai touché. Parce que l'absurde, c'est soit ça passe pas, soit ça passe.
Mm.
Voilà, je dirais que c'est ça. Parce que c'est dur d'avoir des gens pas touchés par l'absurde avec de l'absurde. je vais pas leur forcer à aimer l'absurde, comme des gens qui n'aiment pas l'humour noir, je vais pas les forcer à faire de l'humour noir, enfin à aimer.
Oui, parce que toi, t'as quelque chose de très propre à toi, c'est
oui,
ça,
c'est
tu,
ça.
Tu veux dire que t'as une identité hyper marquée, et du coup, ça fait un peu soit t'aimes pas, quoi.
C'est ça, bah, je prends l'exemple d'Adèle Fugazi, vous voyez qui c'est Adèle Fugazi, non
l'humour pas de nom, de nom.
De nom, ouais. Il fait énormément d'absurdes, et il y a des moments où ça marche pas du tout, et des moments où ça cartonne, parce que c'est... C'est encore une fois, c'est ambivalent. C'est comme Alexis Tramoni, humour très noir. C'est,
ouais, ouais.
Enfin, c'est des humoristes.
Okay.
C'est des humoristes qui créent.
Oui, voilà.
Voilà.
Ouais,
on en revient à la création.
On en revient à la création, exact. Et carrément. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi qui vous... Enfin, comment ça se fait que c'est si nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire pour vous déjà de créer? Bon, j'ai présupposé que oui. Mais et comment ça se fait que c'est si nécessaire dans vos vies Fred et Gabriel de créer, d'avoir ce rapport-là à, que ce soit créer un personnage créer un texte pour aller l'envoyer sur scène seul ou sur un plateau avec plein d'autres acteurs et plein, enfin, voilà, et un plateau fourmillant ou un truc très seul d'ailleurs anyway, c'est, qu'est-ce qui fait que c'est autant nécessaire dans vos vies en fait?
Bah, créer finalement, c'est donner un corps à ce qu'on a d'abord rêvé. Donc la création est importante et on crée systématiquement. Si on fait un 360 sur nous-mêmes, il n'y a que de la création. Là, si on fait le tour du studio, le jardin est en travaux, bah, ils vont créer quelque chose.
C'est vrai.
On crée tout le temps. On crée des situations, on crée des conflits. On crée des amitiés, on crée plein de choses.
Exact, on crée plein de choses, ouais.
On crée plein de choses.
Tout le temps. Et pourquoi c'est... Enfin, donc il y a les choses comme ça de la vie où la création est tout le temps omniprésente partout, mais pourquoi c'est si important d'aller la faire avec un acte artistique, en fait?
Ah ouais.
Ou d'associer l'acte artistique en plus de cette création qui est omniprésente?
Finalement.
Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à...
Toutes les créations ne sont-elles pas artistiques, justement?
Je dirais que c'est, moi. Mais c'est assez vaste, c'est ouf, mais...
On construit une maison, on crée une maison, un architecte crée une maison, c'est de l'artistique.
Techniquement, ouais.
Là, dehors, ils vont faire des travaux dans le jardin, ils vont créer un jardin, c'est artistique.
Ouais.
Artistique. Et la création... est-ce qu'on peut imaginer un homme qui ne rêve pas? Qu'est-ce que ce serait si... On
sans
ne rêvait
ambition,
plus.
Ouais.
Voilà, on ne rêve plus.
Je dirais qu'on est, si on ne rêve plus, on est spectateur des rêves des autres, techniquement. Enfin, voilà. Il y en a beaucoup, ceux qui scrollent et qui ne créent pas.
Voilà. On est spectateur de gens qui créent.
Voilà,
donc
ça.
Il y aura toujours la création. Le monde dans lequel on vit est une création.
Il y a les créateurs et les spectateurs.
Voilà.
Mais les spectateurs peuvent être créateurs.
Ben oui, puisqu'ils créent leurs émotions, ils rigolent. Donc ils créent une émotion.
C'est ça.
Donc tout le monde crée.
Et la boucle est bouclée.
Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on a ce besoin de créer parce que c'est une manière aussi d'exister. Enfin, c'est...
De s'évader, de rêver.
Oui, voilà.
Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que, Gabriel, quand tu dis d'exister, qu'est-ce qui fait que tu te sens exister avec la création?
Bah parce que en fait via la création je vais justement créer des liens avec des amitiés, des personnes avec lesquelles sans création j'aurais jamais pu avoir de lien, quoi. Et je trouve qu'avec la création tu touches plus de gens pour avoir plus de relations que sans création il y a moins de liens, je trouve. Faire...
Du coup c'est les liens qui sont... C'est important pour toi, les liens?
Oui, c'est... Bah oui, puisque... Pour moi, oui, c'est très important. Pour moi, c'est la base de pourquoi je fais ça. C'est les liens. Pour avoir des liens, des relations.
C'est un créateur. Un jeune créateur, voilà. Ouais. Si on devait te qualifier jeune créateur humoristique, et avec très certainement beaucoup d'humour.
Et toi, Fred, les liens, enfin, le fait de créer des liens... ou de te sentir exister à travers la création, ça t'évoque quelque chose ou...
Bah, c'est primordial, ouais. c'est l'essence même de notre métier. Si effectivement on ne créait rien et on serait juste derrière un écran, on serait personne. On crée des liens, on crée des sourires, on crée du bonheur. Et ça, moi, c'est mon essence. C'est ça. C'est même les gens qui trouvent pas ça drôle, c'est pas grave, puisque rien que le fait qu'ils disent que c'est pas drôle, ça leur a créé un petit bonheur de le dire. Donc
ça les a traversés quelque part, ah, et,
ils ont besoin. Ouais,
c'est... La notoriété, je m'en fous, surtout à mon âge. Maintenant, c'est de voir des gens qui sont contents. Voilà, moi c'est voilà, faire plaisir aux gens.
Trop bien.
Voilà, c'est ça qui me, c'est mon essence.
C'est ce qui t'anime.
Ouais. Ouais.
Je comprends. C'est vrai que bah c'est faut donner un maximum d'amour justement pour justement recevoir.
Ah bah c'est clair.
Faut faire le don.
C'est clair. Ouais.
Il y a ouais cet équilibre entre donner et recevoir
Qui est très important.
Qui est tout le temps là, omniprésent aussi carrément. Allez, et globalement très rapidement parce que le temps file à une allure incroyable, mais avant de glisser vers la fin, j'aimerais juste comme ça, imaginer une journée type un peu de dans vos vies autour de la création. Est-ce que vous êtes du genre à 8h, je me lève, je bois un café, je prends ma feuille blanche, je gratte, ou est-ce que vous êtes du genre 3h du mat, je me réveille, j'ai une inspiration, ou est-ce que vous êtes du genre peu importe, il y a une tonne de vie quotidienne différente, autant qu'il y a d'artistes en fait, mais quelle est votre vie quotidienne dans la création, dans le processus de création ? Comment ça marche ?
Je commence ?
Ouais, pourquoi pas ?
Alors très simple, moi je suis comédien, producteur, réalisateur et animateur. Oh. J'ai une idée à la seconde. Donc je crée plein de choses. J'ai créé des émissions qui s'appellent les rendez-vous de Fred. Je crée des sketchs sur Internet. Je crée plein de choses, des films d'entreprise. Je crée des histoires. Je crée des et voilà. Donc je crée tout le temps en fait. Et toi ?
Moi je dirais qu'à 8h je me lève et je regrette tout ce que j'ai pas fait la veille. Du coup dans ce processus de regret, je me dis ah bon bah vu que ce que j'ai pas fait la veille, je vais le faire aujourd'hui. Et en fait moi c'est par le regret que je suis animé. Parce que j'ai un regret obsessionnel de tout ce que je fais.
Donc le moteur serait ton regret, du coup, voilà. c'est genre reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, ça te sert à le lendemain, tu le reportes encore ou ça va te faire un coup de pied au cul quelque part ?
Justement, avant le regret, c'est ce qui m'enterrait, c'est de me dire « Ah, j'ai pas fait ça », et je restais bloqué dans cette idée et sans faire. Et toute l'année 2025, ça a été ça. Et là, je me suis bougé, je me suis dit « Ok, j'ai pas fait ça, ben, je vais le faire là ».
Allez, c'est parti.
Donc là, tu vas pas regretter d'avoir fait l'émission.
Ah ben non, justement.
Ah, ben ouais,
ça s'est fait, ça fait partie.
Trop bien. Ça, t'as coché ça sur,
ouais,
sur la liste.
Ça s'est fait.
Trop bien. Et ben, c'est un peu, ça me fait penser, c'est un sujet super vaste. On pourrait aussi en parler pendant des heures, le regret. Et pareil, toi, Fred, quand tu décides de tout plaquer, dire ben, en fait, nos regrets, en fait, moi, je veux pas avoir
j'ai
des regrets.
J'ai aucun regret. Je veux pas avoir un pied dans la tombe et me dire « j'aurais dû ». Donc c'est pour ça que je fais plein de choses.
Du
et
coup,
que je
c'est
crée
ça.
Plein de
il y a, ouais, il y a pas une journée qui se ressemble, j'imagine.
Jamais.
Toi, du coup.
Moi c'est.
Toi aussi.
Moi c'est un peu le mythe de Sisyphe, le rocher, tac, bah, tout tombe. Enfin, Albert Camus.
C'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout. Chaque matin, je soulève un rocher, tout en haut, et le rocher il tombe, et je suis obligé de recommencer à chaque fois. C'est un peu, bah, c'est ma condition. Mais il faut être déçu, il faut se relever, c'est ça quoi.
Parce qu'on est vivant.
Ouais.
Voilà, le mot de la fin, on est vivant.
Et en parlant du mot de la fin, tu crois pas si bien dire, Fred, parce que si vous deviez donner qu'un seul mot pour illustrer votre rapport à la création, quel serait-il ? Comme ça, là, sans réfléchir à la volée. Un seul mot.
Créer, c'est rêver.
Rêver ?
Rêver, ouais.
Rêver pour Fred.
Ouais.
Ah, moi j'en ai trois.
Vas-y.
Mais,
on a dit un.
Je dirais croire, confiance et ascension.
Croire, confiance, ascension. Ça nous fait trois mots, mais ils sont acceptés, ils sont validés. Tiling dans cette émission. merci beaucoup, Gabriel et Fred.
Merci de ton invitation.
Merci infiniment.
Et merci à Alice Rollet à la réalisation.
Merci Alice.
Et
l'indispensable Alice.
Oui, l'indispensable Alice. Vraiment, c'est important d'avoir une indispensable Alice dans cette émission. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt sur les chemins de la création. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.